Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans Périgord littéraire. Alors, cette année 2023, ben, on fête le centenaire de la naissance du mime Marcel Marceau. Alors, il s'appelle en réalité Marcel Mangel, de son vrai nom. Il est né le 22 mars 1923 à Strasbourg. En 1939, face à l'avance des troupes allemandes, il quitte l'Alsace avec ses parents pour se réfugier à Périgueux, puis à Limoges, où il intègre l'école des arts décoratifs. De confession juive, il est recherché par la police. En 1942, il sera moniteur de théâtre au château de Montintin, en Haute-Vienne, puis à la maison d'enfants, de Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Alors, ce sont des lieux historiques qui regroupent des enfants menacé par la déportation. Grâce à ses dons de dessinateur, il contrefera les cartes d'alimentation et fabriquera de fausses cartes d'identité, puis il va rejoindre les francs-tireurs et partisans français du nord d'Ordogne, où il agira comme passeur d'enfants juifs vers la frontière suisse, vers les villes françaises à la limite de la Suisse. Alors nous étions déguisés en boy scout, nous pouvions être pris, l'on ne pensait pas en cela, on a été préparé à vivre et non être torturé, dira-t-il plus tard. Son père sera arrêté en 1944 à Limoges, déporté, décédera à Auschwitz. Sa mère, elle, rejoindra Périgueux. Alors comme surnom, il se rappelle les vers de Victor Hugo, tirés des châtiments, Joubert sur la Dige et Marceau sur le Rhin. Comme j'étais originaire du Bas-Rhin et que je voulais bouter les Allemands hors de France choisissent de m'appeler Marcel Marceau. Voilà d'où vient son nom de Marcel Marceau, donc il gardera toute l'année. Alors engagé dans l'armée du général Delattre, il fait la campagne d'Allemagne et rendu à la vie civile, il contribue à remettre l'art du mime sur le devant de la scène. En 1947, il crée au théâtre de Poche, Montparnasse, le personnage de Bip, Pierrot Lunaire populaire qui fera sa renommée internationale. Et alors, pour transmettre son savoir, en 1978, il fonde l'école internationale du mimodrame et il s'éteint le 22 septembre 2007 à Cahors. Mais il sera inhumé au Père Lachaise. Il était officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du mérite, commandeur des arts et lettres. Et durant toute sa brillante carrière, il a conservé son pseudonyme en souvenir de la résistance qui est toujours en moi lorsque j'évoque tous ceux qui ont disparu et tous ceux qui ont été torturés et fusillés pour que notre monde reste libre et juste, dira-t-il assez souvent. Alors Marcel Marceau, bon, dans sa vie privée, il épouse Huguette Mallette, puis Anne Cisco, et il sera père de 4 enfants. Alors il est auteur de nombreux ouvrages, dont Les 7 péchés capitaux, Ponce 1965, La balade de Paris, en 1968, une série d'entretiens publiée en Suisse, à Zurich, en 1972, Histoire de Bip, L'école des loisirs, en 1976, Le troisième œil, Delcourt, 1981, Piporello, en 87, et Bip, piégé dans un livre, La Martinière, en 2002. Alors, il y a une filmographie quand même qui était impressionnante. Alors, en 1946, La Bac, c'est un court-métrage, Alain René. Il va y avoir le mime Marcel Marceau de Dominique Lelouch, le monde visuel de Marcel Marceau, d'Annette Wolf, et puis Barbarella de Roger Vadim, on ne s'attendait pas toujours là, et il va faire le rôle du professeur Ping. Alors il va y avoir Shanks, dans lequel il va interpréter Malcolm Shanks. La dernière folie de Mel Brooks, c'est un film muet de Mel Brooks, et lui-même il prononce paradoxalement le seul mot parlé du film, non. Alors les îles de l'IGN, il va y avoir Marcel Marceau ou le poids de l'âme, Marcel Marceau en scène d'Alain Denon, et puis il va y avoir d'autres, et donc il va y avoir le théâtre également. Alors le théâtre, mais ma foi, il est important également. Il va y avoir La Bague, c'est un court-métrage d'Alain René, Micmac, de Jean Béranger, pantomime avec une préface de Jean Cocteau, Le Jardin public, il va y avoir La Belle et l'Empereur, le même Marcel Marceau, le monde visuel de Marceau, et l'Art of the Silence. Et puis en 1992, Marcel Marceau ou Le Poids de l'âme d'Alain Deneau et Jean-Pierre Burgot. Alors il n'est pas seul dans la fratrie, il a un frère qui s'appelle Alain, donc Angèle, instituteur, puis résistant, il sera son administrateur et en 1990 publiera chez PLB Aubug dans la collection Euphorbe, 1939, chronique d'un exode de l'Alsace à Périgord, dont voici le résumé de l'histoire. 1939, la tension monte en France et dans le monde, des milliers d'Alsaciens sont alors évacués de Strasbourg, de leur province, pour le Périgord. C'est l'exode. Sylvestre Bangeau, jeune instituteur nommé à Vélines, nous raconte sous la forme romanesque adaptation et la nouvelle vie de ces immigrés, village tranquille, affairé aux vendanges. Alors Vélines nous apparaît comme le repos ou l'insouciance, peut-être la naïveté très loin de l'explosion. C'est une galerie de personnages caractéristiques ou pittoresques, attachants ou parfois révoltants, qui est décrite jusqu'à la déroute militaire française et l'occupation. Jamais traité à ce jour dans la littérature régionale périgordine, un tel sujet mérite qu'on s'y attarde et qu'on s'émeuve au fil des amours de Sylvestre et de son jeune regard, étonné et horrifié par les événements extérieurs et tous ceux qui ont connu cette période. Et cette région s'y reconnaîtront. Donc c'est publié par PLB Aubug en 1990. Alors, donc ce livre, ben on va tout au moins en voir le début. Et il va y avoir un petit avertissement. Seuls les événements et personnages historiques sont conformes à la réalité. Tous les autres noms et situations sont de pure fiction. Et toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne pourrait être que coïncidence fortuite. Et puis dans les premières pages, on va trouver une citation de Montaigne, notre Périgourdin. Voilà ce que dit Montaigne. « Lendemain, au matin, trouvâmes une grande et belle plaine, flanquée à main gauche, de coteaux pleins de vignes, les plus belles, les mieux cultivées, et en telle étendue que les Gascons qui étaient là disaient qu'ils ne pouvaient n'en avoir jamais vu tant de suite, et les vendanges se faisaient l'or, et elles se font toujours. » Voilà, et donc il poursuit ainsi, donc Alain Mangel poursuit, une fois de plus, c'est la guerre, mais on est en pleine vendange à Vélines, dans la Dordogne. On a pour se faire les mêmes gestes que du temps de Montaigne, dont les villages de Saint-Michel sont tout près. Les lois éternelles, plus fortes que la folie des hommes, font indéfiniment frémir le cycle de la vie dans le corps des êtres et de la terre. Ceci, c'est mon sang, dit le curé en présentant la coupe emplie de vin au cours du vieux drame de la messe. Est-ce la quête annuelle du Graal, se demande Sylvestre, encore bercé de mythologie wagnérienne. Il est venu en curieux un jeudi pour voir comment l'on vendangeait par ici. Peu de temps après son arrivée à Vélines, le très jeune instituteur alsacien avait lié connaissance avec un garçon de son âge, les parents de Gabi Merchanou, possédés sur les pentes de la tour de Beauvignan, produisant leurs 150 barriques. Alors, petite précision, la barrique fait environ 225 litres. Et donc, chaque année, la même troupe de vendangeurs descendait des hauteurs de Belvès dans le Sarladais pour aller vendanger chez les Merchanou. Dans la région de Sarlat, on disait que l'on allait dans les Pays-Bas. C'est toujours vrai, d'ailleurs. Cette année, la troupe fut surtout composée de femmes, de tout jeunes et des vieux. Les hommes étaient, pour la plupart, partis à la guerre. Ils commençaient tôt le matin, car on ne savait jamais comment le temps allait évoluer. Chacun avait une fonction précise, et le chef de la troupe de Belvès était responsable de ces hommes. Plutôt des femmes, hein. Le père Merchadou dirigeait l'ensemble, faisait faire telle pièce en priorité, veillait à ce qu'on ne laisse pas de raisin à la traîne. Le fils restait au chai pour s'occuper de la réception et de la vinification. Journée le long des rangs, dans la promiscuité des corps accroupis sur les cèpes, baignant dans les odeurs de raisin pré-éclatés et de la terre en gésine. Hommes et femmes cueillaient les grappes et les mettaient dans les paniers à côté d'eux. Étaient groupés par sympathie, par affinité. Les galants s'arrangeaient toujours pour être près de leur mie. Des couples éphémères se former. Alors, ça s'est tiré d'Eugène Leroy, l'un des rustiques, en Périgord. Alors, beaucoup d'évacués et Alsaciens participaient à ces vendanges. C'est comme chez nous à la maison, dit le vieux Schutter, à Sylvestre, mais ici, on porte le raisin différemment. On avait en effet abandonné le système des comportes. C'est au panier que l'on met lourd de grappes à deux, sur l'épaule, sur le bâton, et le bâton qui est souvent cassé. À Véline, on préférait se servir des baillottes portées à même la tête. Elles étaient alignées, tous les 5 ou 6 mètres, et les vendangeurs y vidaient au fur et à mesure leur panier. Un aide boulait en tassant le raisin à la main ou avec un bout de bois fourchu. Jouer morceaux de pulpe giclés et se colorer tiède entre les poils des bras et de la poitrine. Dès que la baillotte était pleine, le porteur la hissait d'un coup de rein sur la tête, coiffé d'un plateau rond en bois, dont le pourtour intérieur était tapissé de jonc. Et le corps droit, pour maintenir l'équilibre, il s'en allait vers le bord de la route où attendait une charrette. Sur celle-ci, des douillettes, une fouleuse en bois avec des rouleaux en fonte et une manivelle. Le porte-baillotte grimpait avec précaution le long de l'échelle, posé contre la charrette. Pencher la tête pour basculer le contenu de son panier dans la fouleuse et donner un tour de manivelle pour faire la première pressée. Quand les douillettes étaient pleines, un domestique amenait la charrette attelée de bœufs au chai où elles étaient vidées dans les cuves. Alors, moi j'ai connu ce genre de vendange dans les années 50, c'est pas tout récent, mais enfin, dans le Lot, c'était comme ça. Alors, je vais continuer la lecture. Alors que le raisin blanc était aussitôt pressé, le rouge était déversé avec sa râpe. Alors, la râpe, c'est la tige de la grappe de raisin, où il y a des grains qui sont accrochés après. Donc, avec sa râpe dans les cuves spéciales, alors tous les soirs, les hommes y entraient presque nus, éclaboussés par tout ce sang de la terre grisé par les vapeurs du boue qui commençait à fermenter. Ils foulaient les grappes, et leurs mouvements devenaient de plus en plus frénétiques, mais il ne fallait pas trop se laisser griser, car la mort rôdait au fond des cuves. Malheur à celui qui perdait prise et tombait dans les émanations de gaz carbonique. Et il y a eu des fois, je rappelle toujours dans l'autre, où une personne était descendue dans une cuve et n'est pas remontée vivante. Voilà. Bien, alors donc, je vais continuer un tout petit peu, rougi jusqu'au blanc des yeux, Gabi Merchadou dansait dans sa cuve, dansait le vin futur qui en fera danser bien d'autres. Alors des centaines de milliers d'hommes sont au front du côté du Rhin et les Alsaciens étaient déracinés. Mais Sylvestre se laisse pénétrer par toutes les impressions de cette fête du vin. Il y a 3 mois, il était encore chez lui à Strasbourg, puis tout s'est précipité au rythme des mauvais rêves dans lesquels le temps a perdu toute signification. Il vient d'avoir 18 ans et le voilà instituteur, le plus jeune instituteur de France. L'inspecteur le lui a dit. Il ne sait pas s'il doit s'en réjouir. Il a vécu tant de choses incroyables. Est-ce une accalmie entre deux orages? Il se revoit le 16 octobre 1939, convoqué par Monsieur Tavoyot, son inspecteur primaire, dont les services sont repliés à Périgueux, devenu le chef-lieu du Bas-Rhin. Manjot, vous êtes nommé instituteur d'une classe alsacienne que vous aurez aménagée à Véline. Vous n'avez certes que vos 2 premières années d'école normale, mais sans événement, vous seriez maintenant chez vous à Strasbourg en 3e année. Eh bien, vous préparerez le brevet supérieur tout en enseignant. Les circonstances sont tellement exceptionnelles. Départ pour Véline vendredi prochain, le lundi 23, ouverture de votre classe. Bonne chance. Voilà. Donc je vais arrêter là cette lecture, donc c'est 1939, chronique d'un exode dans les Mangelles. Alors pour terminer, je dirais que cette année, Périgueux va fêter les 40 ans de MIMOS, Festival international des arts du mime et du geste, créé en 1983 par Ginette et Paul Tellier, en souvenir de BIP, dont la jeunesse fut périgourdine et qui fut membre du comité. Voilà. Donc, je crois que mon temps imparti est terminé et je vous donne mes rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, au revoir et bonne semaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.